Shmuel Redby, Le sourire énigmatique, aventure apocryphe d'Arsène Lupin. Chapitre 1. Raoul d'Averny, gentleman cambrioleur. En octobre 1929, le monde fut frappé par le terrible crash de la bourse de New York. Sans cela, la réapparition d'Arsène Lupin, après 6 ans de silence, aurait sans doute été considérée comme l'événement le plus marquant de l'année. Cette étrange affaire amusa fort le public pendant tout le printemps, mais tomba dans un oubli bien regrettable avec l'explosion de la grande crise. Le printemps était précoce, et Paris fleurissait déjà sous un soleil encore timide, mais bien d'aplomb et bien souriant. En cette belle après-midi du 25 mars, 2 hommes, vêtus avec élégance, profitaient du soleil printanier à la terrasse du Café des Princes, non loin de l'hippodrome. Monsieur Pierre-Louis Gabillon, conservateur du musée du Louvre, et son cousin Jacques Blaisy, propriétaire des écuries du même nom, avaient l'habitude de se retrouver ainsi, tous les lundis, à 5 heures, pour deviser nonchalamment sur les 3 sujets qui les occupaient, les courses de chevaux, les œuvres d'art et les chroniques des faits divers. « D'Averny est en retard, » remarqua monsieur Gabillon. « Sans doute encore une rocambolade à sa façon, » sourit Blaisy. J'avoue qu'il est bien divertissant avec toutes ces histoires à dormir debout. » Raoul d'Averny était un homme d'une 40aine d'années, aux tempes grisonnantes, à l'aspect robuste, à l'élégance un peu hautaine et au sourire toujours ironique. Après une carrière dans l'armée au cours de laquelle il avait reçu le grade de capitaine, 3 blessures, la croix de guerre et plusieurs citations à l'ordre du jour, il avait quitté la France pour l'Orient. Il était revenu 6 ans plus tard, en 1926, avec une fortune que l'on disait colossale. Les mauvaises langues ajoutaient qu'elle s'était constituée au détriment de richissimes rajas et de mandarins naïfs. Après avoir été chasseur de tigres au Bengale et propriétaire de mines d'or en Afrique du Sud, ce grand voyageur et homme charmant avait entrepris la conquête des salons parisiens. L'été précédent, il s'était rendu célèbre dans l'affaire de la duchesse de Krantz. La vieille douairière avait été enlevée en pleine place de l'Opéra. Les ravisseurs réclamaient une rançon impressionnante au gouvernement allemand, et la police piétinait malgré les énormes moyens dont elle disposait. Raoul d'Averny avait mené campagne avec une clairvoyance et une audace incroyables. Il avait fait évader la duchesse à dos d'âne sur un petit chemin forestier accroché au bord de l'abîme et permis la capture de Rudolf Verstadt et de Jürgen Blumreich. Les 2 dangereux malfaiteurs avaient été remis à la justice pieds et poings liés. Par contre, on n'avait jamais retrouvé le merveilleux bracelet aux 30 rubis. Les 2 hommes affirmèrent qu'ils étaient prêts à monter à l'échafaud plutôt que d'avouer que ce bijou fût en leur possession. Quant à Raoul d'Averny, il avait simplement dit en riant « La duchesse a peut-être perdu son bracelet en route, qui sait ?» Les amateurs de sensations avaient judicieusement remarqué que le nom de Raoul leur rappelait à s'y méprendre les divers pseudonymes sous lesquels s'était caché dans le passé le célèbre Arsène Lupin. Raoul souriait en se disant très flatté de la comparaison. Si l'on savait que l'aventurier s'était retiré au clos des Lupins, dans un village de Normandie, personne n'avait jamais retrouvé le lieu exact de sa résidence et tous les paris étaient ouverts. S'occupait-il d'horticulture, comme on l'avait dit, ou bien continuait-il son petit bonhomme de Lupin? On n'en savait rien. Jacques Blaisy ouvrit le Paris Journal et claqua de la langue. « Du nouveau ?» demanda M. Gabillon. « On parle de toi dans le journal. Vraiment ?» Blaisy lut lentement la lettre ouverte suivante. À M. Gabillon, conservateur du musée du Louvre. « Cher monsieur, ayant toujours eu un goût prononcé pour la généalogie et mettant de l'ordre dans mes vieux papiers, j'ai trouvé certains documents relatifs aux origines de ma famille. Il se trouve que mon arrière-grand-mère Lisa, native de Florence et née Vincenti, prétendait sur son lit de mort que le vrai nom de la famille était Vinci et non Vincenti. Son prénom de Lisa et son origine italienne, et plus spécialement florentine, ajoutés à ce nom de Vinci, me donnent à penser que mes ancêtres sont les héritiers uniques et incontestables du patrimoine laissé par Leonardo da Vinci, et en particulier de la fameuse Mona Lisa, dite la Joconde, œuvre qui fut barbarement volée à mon arrière-arrière-grand-père Léonard par le méchant François Ier, roi de France en 1519. Ce portrait, qui ressemble d'ailleurs à s'y tromper à mon aïeul, fut installé au château de Fontainebleau, sans l'autorisation de ma famille, et après des tribulations bien connues, atterrit enfin sous votre toit sans que notre consentement n'ait jamais été accordé. Je vous prierai donc de bien vouloir restituer sans retard ce tableau à ses légitimes propriétaires, et je m'engage sur l'honneur, cher monsieur, à ne pas intenter contre vous une poursuite en justice pour vol qualifié et fraude internationale. Si vous ne consentez pas à ma requête, chose totalement inadmissible chez un homme de qualité comme vous, je me verrai dans l'obligation de reprendre moi-même possession de mon bien le 31 mars à minuit exactement. Veuillez agréer, monsieur le conservateur, l'expression de ma haute conservation. Arsène Lupin. Réponse A. A.L. 31-329. Blaisy éclata de rire. « Eh bien, on va s'amuser. Lupin contre Gabillon. Mona Lupina. »